watching a bird fly. You don't know where he'll go. And you'll see him so. Dans l'échelon des grandes stars du cinéma, Alex.
Oui.
Que t'aimerais le moins te faire chicaner par.
Ah, hey, c'est une bonne question.
Puis, par conséquent, puis parce que là, grâce à Internet, on a entendu parler. On a entendu quelqu'un, une grande vedette chicanée du monde sur son crew. Mm-hmm. Tom Cruise. Fait que, mettons, Tom Cruise, il se place où dans cet échelon-là?
Ben, tu sais, je pense qu'il y a comme une nuance importante. C'est. Il y a comme deux types de vedettes. Il y a les vedettes que tu t'attends à ce qu'ils vont te crier après et ceux que ça te surprendrait.
Mm-hmm. Ok, ouais.
Fait que tu sais, comme mettons, j'ai souvent parlé, Isabelle Huppert, je la trouve super intimidante parce que Isabelle Huppert, j'ai comme l'impression qu'elle va me crier après, tu sais.
Ouais.
Mais puis finalement, elle m'a pas crié après, puis tu sais, ça n'a jamais passé proche de ça. Mais tu sais, mettons, si je sais pas, quelqu'un qui est chill, tu sais, Keanu Reeves me crie après, je serais comme, hey, tabarnak. Tu sais, que j'ai fait, il crie même pas dans ses films quand il est supposé. Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il me crie après? Tu sais, je pense qu'il y a comme une nuance importante à faire là. Mais là-dessus, tu sais, comme du monde qui sont comme habitués, tu sais, comme Al Pacino, mettons.
Mm-hmm.
Al Pacino me crie après, je serais content. Je serais comme, fuck yeah, tu sais. Comme, c'est spécial, là, genre, c'est, je me fais crier après par un des crieurs les plus criants de tous les crieurs, tu sais. Tandis que, c'est ça, tu sais, Keanu Reeves, quelqu'un qui est marmonneux, là, ben, pas mal marmonneux, je trouverais ça plus...
Ouais, tu te demandes qu'est-ce que t'as fait, là, shit, je dois avoir quelque chose derrière.
C'est ça,
là.
exact, tu sais. Ou juste, tu sais, je sais pas, quelqu'un comme Danny Trejo, tu sais, comme du monde qui vont à l'encontre de leur image. J'ai pas l'impression que Danny Trejo crie souvent après le monde, même si dans ses films, il doit tout le temps crier après le monde.
Mm-hmm. Oui, je pense que du monde qu'on imagine comme des travaillants,
ouais.
S'ils se mettent à te crier après, « Oh non! Oh, j'ai fait quelque chose de grave, là. »
C'est ça, tu sais, fait que... Ouais, c'est une bonne... Parce que, tu sais, je sais pas, c'est qui la personne... tu sais, Tom Hanks, mettons. Si Tom Hanks t'écrit après... Il met sa réputation en jeu parce que Tom Hanks est supposé d'être le plus smart de tous les smarts, tu sais.
Mm-hmm.
Fait que là, il est en train d'aller directement à l'encontre de son image. Ce qui est quand même...
Ça veut dire qu'il veut vraiment comme... qu'il y a un courroux contre toi, là. Il veut, il veut vraiment t'écraser.
Il voulait vraiment que ça soit saignant, pas médium saignant. Motherfucker.
Ah non, absolument.
Fait que juste... Mais ouais, non. Tu sais, c'est ça. Fait que dans le Panthéon, Tom Cruise, donc, qui s'est sorti aujourd'hui... Péter un câble contre le crew de Mission Impossible 7.
Ouais, contre deux personnes qui n'ont pas respecté la distanciation de 2 mètres.
Mm-hmm.
Puis il s'est mis à crier après eux autres. Il s'est
exact.
Mis à dire qu'il mettait le film en danger, qu'il mettait Hollywood en danger, qu'il mettait les jobs et le futur des gens dans le danger. Il disait des affaires comme « Vous avez vos raisons pour faire ça, vous irez le dire au monde qui peuvent pas payer leur maison, motherfuckers. » Il va en esti, là. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que ça a été enregistré. Genre, quelqu'un l'a enregistré de slide pour faire comme « Ah, oh, ça m'a vendu ça un journal jaune en Angleterre, puis ça va faire mal paraître. » Mais pour la plupart, la réaction que je vois en ligne, moi, c'est comme « C'est-tu quoi? Oui. » Faut crier après le monde qui respecte pas ça.
Mais tu sais, puis aussi, il crie après le monde. Il les insulte pas vraiment. Tu sais, comme, il s'en prend pas à eux autres directement. Tu sais, il a pas dit, toi, mon hostie de. Tu sais, de. Tu sais, whatever, là, face de pizza, whatever. Mm-hmm. Tu sais, comme, c'est pas comme une affaire de Kramer, là, qui capote dans le comedy club puis qui dit des shit racistes. Tu sais, il s'en prend pas à eux autres spécifiquement. C'est comme la meilleure façon de péter un câble après quelqu'un, c'est vraiment ça. Je pense qu'on va étudier ça dans le futur comme étant, mm-hmm. genre... Parce que j'imagine que là, le monde doit être genre, « Cancel Tom Cruise, il est toxique. » Mais c'est comme... Le COVID est toxique également, les amis, je sais pas. je sais plus trop, là. Je sais pas trop où me positionner là-dessus. Moi, je péterais pas un câble contre le monde de cette façon. Mais je peux comprendre pourquoi tu le ferais. Puis surtout Tom Cruise, qui, tu sais, il veut littéralement mourir en faisant un film. Fait que s'il arrête de faire des films, Tom Cruise, il va falloir qu'il meure, genre, de la façon normale.
Ouais, ouais.
Comme nous tous.
Il veut mourir sa pellicule, Tom. Là. Il veut pas mourir du COVID dans un hôpital.
C'est ça, exact.
Il veut mourir en décompression en allant dans l'espace pour filmer une chute avec Doug Liman.
Précisément. Donc, c'est ça. Donc, tu sais, je pense pas que Tom Cruise est au top de la... Il a l'air pas pire intimidant, tu sais, quand il crie dans le clip. On le voit pas, c'est pas une vidéo, c'est du audio seulement.
Il est probablement minuscule, mais tout de même intimidant. Il y a une rage dans cette petite contenance-là.
Ouais, c'est clair. Il y a aussi une dame plus que tout le monde. Ça, c'est weird.
Écris ça, là. Tom Cruise, genre, il a jamais donné son likeness à quoi que ce soit, hein. Quand il y avait eu un jeu, je me rappelle, au Nintendo 64 de Mission Impossible, d'eau générique, il n'y a jamais eu un... Il n'y a pas de figurine basée sur ses films, il n'y a pas vraiment de jeu vidéo, ou du moins, sa face n'est pas là. Tu le vois pas. Regarde, c'est pour ça, il aime le cinéma, Tom. Tu veux le voir, tu veux... Soit tu prends une photo avec, qui est sur des pellicules, ou sur la pellicule du cinéma. Autrement, tu peux pas le voir, tu peux pas l'avoir dans... voir une figurine. Je pense que c'est ça, c'est une raison pourquoi on ne verra jamais faire un film de super-héros.
Ouais.
Il n'y aura jamais de figurine de Tom. S'il
on
est dans
pas
un
mettre
film,
sa face sur un sac de chips.
Hein, c'est ça. Peut-être qu'il va être dans un Star Wars avec un casque, mais ça, autrement, on l'aura jamais.
Il y a aussi, je regarde ça, là, il n'a jamais fait de la TV non plus. Pas une seule fucking traître fois, même pas quand il était un inconnu. Là.
C'est vrai, hein, il n'y a même pas...
Tu sais, il n'a pas été dans Spencer ou une marde, un sitcom de 1981, genre.
Ouais, c'est vrai, ouais.
Il n'y a jamais, tu sais... Wow. OK. Ben... Ouais, Tom Cruise, en tout cas. C'est
Monsieur Cinéma.
Il a réalisé un épisode de télévision.
Ah, de quoi?
Un show qui s'appelait Fallen Angels, que j'ai jamais vu, mais qui c'est un film, un show d'anthologie. Des années 90, où ce que chaque épisode était réalisé comme par quelqu'un de big, des fois des réalisateurs qui sont big, mais des fois juste straight up des acteurs ou des trucs comme ça. Là. J'ai jamais regardé, ça a l'air que c'est bon. Puis dans chaque épisode aussi, il y a des gens connus, là, Gary Oldman, mettons. Mm-hmm. Et dans le premier... Mm-hmm. Il me semble que Tom Hanks en a réalisé un. Ouais, Tom Hanks a réalisé le deuxième qui est avec Bruno Kirby et Marg Helgenberger. Fait que tu sais, c'est ça. C'est... c'est ce que c'est. Je sais pas si ça se trouve.
Je sais pas, hein. Mais en tout cas, je te dis qu'il y a juste un endroit où que les gens peuvent entendre de tels propos. C'est bien sûr dans Les Voyeurs de Vue, un podcast où on discute les vues qu'on regarde devant l'éternel pour discuter de ces vues-là. Il y a moi-même, Yannick Belzil.
Et moi, Alex Rose.
Alex, on est dans notre épisode de Noël.
Oui.
On est, joyeux Noël à tous, ou bon temps des fêtes à tous, que pratiquement tout le monde va être chacun chez soi. Alors, quel meilleur moment pour écouter des vues. Et on est là pour parler des vues de Noël qu'on a vues dans les dernières semaines.
Oui.
Mais avant de rentrer dans les vues de Noël qu'on a vues, ces deux vues-là, on va vous parler de The Happiest Season, qui est sorti il y a quelques semaines, qui est une comédie romantique. Et on va vous parler aussi de Batman Returns, qui est sorti en 1992, qui est aussi une genre de comédie romantique. du moins, moi, je trouve que c'est très comédique et c'est très romantique parfois aussi. Mais avant ça, on va encore vous parler de Batman. Car Justice League... qui était dans nos vies avant, qui est dans nos vies maintenant et qui va être dans nos vies dans le futur puis qui n'arrêtera jamais.
c'est terrifiant quand tu te dis de même. Là.
Ben, regarde.
Je trouve ça arrachant.
Avant, je pensais que je parlais juste du concept de Justice League en tant que comic book, mais là, je parle du film de Zack Snyder qui va être là pour toujours, qui va se shape-shifter à travers les médias possibles qui peut être broadcasté. Là, Zack Snyder nous a révélé cette semaine que une des 1000 versions de Justice League va pouvoir être vue au cinéma, serait apparemment sa version de 4 heures, et qu'elle serait non seulement cotée R, mais que le Batman dirait fuck dedans. Puis ça, ben écoute, c'est peut-être ça qui manquait à Justice League pour que ce soit vraiment comme l'œuvre de génie que tout le monde attendait. Fait que je suis vraiment content que ça va arriver. J'ai très hâte. J'ai hâte de... Là, ça ne va pas être HBO Max ici, ça va être Crave. Pendant 4 semaines de suite, m'a me clencher 1 heure de Justice League qui est pas bon.
Ah, parce qu'ils sortent en mini-série en plus, c'est ça?
Oui, ils sortent en mini-série. Ils sortent dans tous les formats. Quibi va revenir pour diffuser Justice League en morceaux de 15 minutes.
En vertical et en horizontal.
Oui, en vertical et en horizontal. Si tu vas à certains arrêts de bus à Montréal, il va y avoir des écrans pour regarder des bouts de Justice League. Il va être aussi en vidéo poker, dépendamment de ce que tu alignes. Tu vas avoir des scènes de différents personnages. Justice League va être disponible partout, en toutes les formes, tous les formats.
Mm-hmm.
J'ai vraiment hâte, car Crime, c'est une œuvre géniale. Puis j'ai hâte de que ce soit confirmé pour moi.
Tu sais, dans les années 90, il y avait des jeux vidéo vraiment BS, que c'était juste un jeu. T'sais, moi, j'en avais un d'Aladdin, dans le fond, puis c'est une petite console qui joue juste Aladdin. C'est pas vraiment un jeu vidéo, c'est vraiment juste comme des sprites. Hein.
Des sprites de LCD, oui, c'est des petites consoles de ce qui s'appelait Tiger Electronics.
Oui, voilà.
Puis va...
Il va en avoir un de Justice League, c'est ça que je veux savoir.
Ben, c'est sûr qu'il va en avoir un, puis ça va être une scène de Justice League en plus.
Ouais, voilà.
J'ai vraiment hâte de le Tiger Electronics de Justice League. Puis pourquoi on en parle? Ben, on va parler de Batman plus tard cette semaine, mais aussi c'est juste que tant qu'il va. Il va continuer à avoir des nouvelles de Justice League jusqu'à ce que le moral de la planète s'améliore. Fait que c'est pas moi qui fais les règles.
C'est la propagande, c'est le wartime propaganda de 2020. C'est juste des annonces à propos de Justice League.
Ouais.
At the front today, our boys in blue. Puis là, c'est genre ta-ta-ta-ta-ta, Ben Affleck, la plage, puis genre.
Ben Affleck is putting up the capes again as the Batman. D'ailleurs, une affaire qui a été cependant annoncée, c'est que, vite de même, j'ai juste pensé, oui, Wonder Woman va être disponible pour $30
mm-hmm.
en location au Canada.
Il sort le 25, c'est ça?
Il sortirait le 25, oui, puis il serait disponible genre pour 48 heures au Canada. Là. Wonder Woman 84 est comme un Pokémon.
Ouais, aujourd'hui, j'ai eu les nouvelles de comment je vais pouvoir voir Wonder Woman 84.
Oui, oui.
Et c'est un truc genre très old school où tu sais, ça va être disponible à cette heure-là et je dois le regarder quand il passe, comme une TV.
Ah ouais. Fait que genre, t'as un lien, genre, pas ça, mais comme un lien Twitch. Là, faut que tu sois devant ta TV.
Ouais, essentiellement. Fait que là, tout le monde, ou je pense qu'ils font un bash pour pas que ça crash, là, parce que tu sais, si 10 000 critiques de cinéma sont sur Wonder Woman 84, tout va exploser. Là. Mais parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont déjà vu, puis j'imagine que c'est par le même principe, là, par des genres de sessions semi. Ben, pas privées, mais. Privées, mais semi. Singulière, semi-solitaire. C'est ça. Fait que moi, je vais avoir le 22, je vais avoir vu Wonder Woman.
D'accord. Ben, je pense que je vais m'organiser pour le voir aussi.
Mm-hmm.
Et on pourra en faire un épisode, qui sait?
Oui, effectivement. Moi, j'ai même pas vu le premier. Il faut que j'arrête le premier. Je vais faire ça cette semaine.
Oui. Ben, j'ai l'impression que, selon ce que je vois, il y en a un qui est meilleur que l'autre.
Ouais.
Apparemment qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Et c'est pas celui qu'on va voir pour la première fois bientôt. Ce que je trouve bien dommage, là, mais en tout cas.
On en a parlé, il y a une scène là, qui était comme un sneak peek de, je pense, d'Entertainment Tonight, de Wonder Woman qui court à côté du char. Là ouais. J'étais, ça avait de l'air, si ça avait de l'air d'un show au câble dans les années 90.
Ouais, ça
a l'air des téléfilms du Flash.
C'est ça là, c'est permettons-nous ça pendant un instant là, créer un effet visuel de super vitesse avec un acteur qui court pour de vrai. Ça reste quasiment c'est le Moby Dick des effets spéciaux de super pouvoir. Ouais. Puis les seules fois que j'ai vu ça marcher, c'est dans Civil War. Qui je soupçonne c'était les scènes qui étaient tournées par Stahelski puis Leitch parce qu'ils ont fait l'action dessus. Puis dans Underworld. Fait que c'est les deux seules affaires. Puis leur effet spécial à eux autres, c'était de faire courir un gars sur un tapis Et le tapis était tiré par un char qui allait vite.
Ouais.
Fait que là, tu sais, ça a de l'air vrai. Mais sinon, il n'y a rien. Faire courir un humain super vite, là, si tu ne fais pas précisément ça, ça n'a pas l'air vrai. Ça ne marchait pas dans Superman en 78. Ça ne marche pas dans Wonder Woman en 84 qui a été tourné l'année passée. Ça ne marche pas. Ça n'existe pas. Ça.
Mais tu sais, pourtant, on est capable de faire un truc comme dans les X-Men où ce qu'il y a.
Quicksilver qui court vite, là, oui. Mais tu sais, c'est un doux ralenti.
Mais c'est ça, mais puis ça, on est capable de faire ça, puis ça, c'est vraiment, ça serait incompréhensible même d'imaginer ça visuellement en 78, tandis que tu es capable d'imaginer quelqu'un qui court vite.
Mm-hmm.
Mais, tu sais, puis ça, c'est compliqué. J'avais parlé au gars qui avait fait les effets spéciaux pour ça, le lead gars des effets spéciaux. Puis c'était comme une affaire avec plusieurs plateformes, puis des poulies, puis des shit, tu sais, qui, comme, c'est tout en practical effects. En fond, il n'y a presque pas de CGI qui, tu sais, il y a beaucoup de trucs... de genre de prestidigitation visuelle qui te fait penser que tu vois quelque chose quand en fond tu le vois pas. Puis ça, c'est quand même plus facile à faire que quelqu'un court vraiment vite.
Ouais, c'est plus facile, genre de. Parce que dans cette scène-là, en plus, Quicksilver, il me semble, il court sur le mur. Fait que c'est de ouais. Construire un décor qui est penché sur le côté.
Mm-hmm.
En tout cas. Fait que bref, c'est ça. Courir. Le dernier combat des effets spéciaux.
Exact.
Mais bref, j'ai bien hâte de le voir.
C'est les bras, je pense. C'est, tu sais, quand tu cours vite dans un film, les bras les pompent vite devant toi, genre comme ça.
Ben, il y a ça aussi, mais ça, je pense que tu le temps. De la même façon que on est capable de voir comme des faces CGI qui sont pas vraiment vraies, je pense aussi que tu le vois de la façon que des pieds rebondissent comme dans les airs après avoir foulé le sol, t'es comme non, c'est pas ça, cette personne-là touche pas à terre pour de vrai, je le sais. ça fait juste pas ça, là, ça marche pas. Là.
Mm-hmm.
Mais bref, en tout cas, Wonder Woman 84, bientôt voyeur de vue. J'ai bien aimé le premier. Mais le second, apparemment, ça regarde. Le signe, les dires avant-coureurs ne sont pas si bons. Mais là, on va parler des films qu'on a vus nous-mêmes. Et on va commencer avec une comédie romantique qui est sortie il y a quelques semaines sur Apple TV et vendredi dernier sur Amazon Prime. C'est là où je l'ai vu. The Happiest Season, qui met en vedette Kristen Stewart, Mackenzie Davis, ainsi que Mary Steenburgen, Mary Holland,
Alison Brie, Aubrey Plaza,
oui,
Dan Levy,
du bon monde de sitcom qu'on aime, qui ont des rôles dans des films, alors tant mieux pour eux.
Puis il y a aussi, là je trouve ça drôle, juste parce qu'il y a une scène, très courte scène avec des
gardiens de sécurité, tu veux dire?
Non, pas des gardiens de sécurité, des drag queens, puis il y en a une qui s'appelle Ben de la Cream, puis ça c'est drôle. Parce que ça a l'air de décrire « Ben de la crème ». En tout cas, mon œil a été attiré par « Ben de la crème » sur Wikipédia.
Écoute, absolument. Ben, qui n'aime pas « Ben de la crème », après tout?
Voilà.
Glacé ou non. Qu'est-ce qui se passe dans « Happiest Season », Alex?
Oui, dans « Happiest Season », c'est à propos de Abby et Harper. Abby qui est jouée par Kristen Stewart et Harper qui est jouée par Mackenzie Davis, qui sont un couple... qui habitent ensemble à Pittsburgh. Je voulais juste souligner, c'est vraiment weird que le film se passe à Pittsburgh. Je pense que j'ai jamais vu ça avant.
C'est une situation, ok, c'est filmé là, on va dire dans le script que c'est là.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, parce qu'ils ont comme un sick appart, puis tu fais, ah, ok, ils ont un sick appart à Brooklyn, tu sais, c'est comme dans toutes les crises de films. Puis là, ils sortent dehors, puis c'est Pittsburgh. J'étais comme, ah, ben Pittsburgh, c'est vraiment plus comme le Trois-Rivières des États-Unis.
ouais.
C'est comme si une comédie romantique québécoise se passait à Trois-Rivières. Bref, ça fait presque un an qu'ils sortent ensemble et ils décident d'aller... Ben, en fait, c'est Noël et la famille de Abby, ses parents sont décédés, sont morts dans un accident quand elle avait 19 ans. Et donc, elle décide... C'est suggéré qu'ils vont passer Noël ensemble dans la famille de Harper. Sa famille qui habite aussi, je pense, à Pittsburgh, mais je n'ai pas trop compris. C'est pas vraiment loin, mais c'est assez loin pour que
ce soit chiant de partir.
Ouais, c'est ça, pour qu'il dorme là. Puis, pour Abby voit ça comme une vraie opportunité de rencontrer sa famille, puis de, tu sais, de de solidifier leur relation et ainsi de suite. Sauf que, juste avant d'arriver là, Harper lui dit qu'essentiellement, elle n'a jamais dit à sa famille qu'elle est lesbienne, encore moins qu'elle est en couple avec une autre femme. Et donc, Abby va devoir faire semblant que c'est juste son amie orpheline qui vient passer Noël avec eux parce qu'elle n'a pas d'autre famille avec qui la passer.
Puis c'est à noter aussi que Abby avait dans le dessein de pouvoir demander Harper en mariage.
Oui.
Et veut faire de façon super traditionnelle en demandant la permission de son père. Puis il dit « Hey, je vais faire ça à Noël, ça va être beau, ça va être le fun. » Et là, toute cette herbe-là est coupée sous son pied. Lorsqu'elle apprend justement à mi-chemin en char, comme « Ouais, finalement... » Fait que c'est pour ça que, mettons, elle revient pas de bord. Là. Ils se rendent jusque-là.
Mm-hmm.
Puis c'est ça. Fait que une fois qu'ils sont là-bas, ben là, elle fait juste comme cacher... ils cachent leur relation. Abby doit faire...
shenanigans, là.
Beaucoup de shenanigans, oui.
De gens à bobette cachés derrière la porte, là, puis des trucs comme ça.
Des trucs comme ça, puis en même temps, elle découvre la vie de famille de sa blonde... d'autres personnes du passé de sa blonde et tout en cachant sa véritable nature.
Mm-hmm.
Fait que je pense que une affaire qui est intéressante, qui est potentiellement intéressante pour parler de ce film-là, c'est aussi parler genre des films de Noël puis des. Parce que surtout, je pense, le film est comme c'est une comédie romantique, mais c'est comme une version hollywoodienne. Avec un cast surcompétent, comme des films de Walmart qui sortent à pelleter à chaque année.
De Hallmark, tu veux dire.
Pas de Hallmark, oui. De Hallmark. Pas de Hallmark, qui est un autre... voilà. le marché pour acheter des pièces de l'ordinateur dans 2001, tu sais, de l'espace. Puis que ça, c'est des films qui sont comme qui se veulent, tout de même en surface, mais des plaisirs simples, réconfortants, avec... tout le bel emballage puis le crémage des fêtes, des chocolats chauds, la rue principale enneigée, rencontrer la famille, connexion romantique, retourner dans un patelin, toutes ces affaires-là. Tu sais, comme, j'ai une bonne idée de quoi ces films-là sont, même si j'en ai vu genre à différents de 5 minutes à TV, je n'ai jamais vu un en entier.
Ouais. Mais tu sais, moi, j'en ai pas vraiment vu non plus de ces films-là, mais... À moins que j'aille oublier. Là. Mais tu sais, je pense que généralement, ça tombe plus dans un... un carcan de films de Noël que j'aime pas nécessairement non plus, comme Home for the Holidays de Jodie Foster ou The Family Stone ou tu sais, des trucs de même. Ou est-ce que c'est comme... C'est pas tout à fait une comédie. Ça se veut une comédie romantique parce que tu sais, il y a un enjeu romantique, mais en fait, c'est comme plus une comédie de famille, je dirais. Comme, tu sais. Puis c'est pas nécessairement des films que je. Un autre qui est comme ça, c'est pas un film de Noël, mais. This is Where I Leave You, qui est comme avec Jason Bateman, Tina Fey. C'est un film de funérailles, là, le père de la famille meurt. Timothy Olyphant est dedans.
Oh, mon boy!
Adam Driver, me semble, Corey Stoll. Tu sais, regarde, c'est un film qui n'existe pas. Et pourtant, j'étais à Toronto pour la première mondiale de ce film. Donc, je peux vous confirmer qu'il existe. Mais, tu sais, c'est ce qu'en anglais, on dirait un ensemble comedy. Tu sais, une comédie où est-ce qu'il y a beaucoup de personnages principaux. Mais là, ce que je trouve qui arrive avec Happiest Season, c'est que c'est une comédie romantique qui a été un peu crowbar pour être un film d'ensemble. Je sais pas si c'est à cause, peut-être, comme tu as dit, le cast de soutien est trop compétent pour ce genre de film. Mm-hmm. C'est des gens qu'on aime, comme Alison Brie et Aubrey Plaza. Mais tu sais, Aubrey Plaza est rendu une place dans sa carrière et dans l'œil public où ce qui ne peut pas être le, comme le deuxième ou troisième personnage le plus important de soutien qui est juste là pour faire réaliser des choses au personnage principal. Puis, tu sais, je pense que c'est peut-être à cause de ça que je trouve le film un peu difficile à définir. Tu sais, je pense que c'est moins simple que juste dire que c'est une comédie romantique, mais en même temps, comme tu dis, ça tombe quand même dans ces affaires de Noël, de chandail, du cinéma de chandail. Là,
oui, oui, oui.
Du gros cinéma. Knives Out, qui est quand même aussi comme une version mystère du cinéma de chandail.
Oui, absolument.
ça se trouve un peu dans la même optique, je pense. C'est du réconfortant chandail, un peu
cozy.
Cozy, exact.
Du puis, cozy je trouve que
pour faire ça, si c'est ça le but de Happiest Season, c'est à peu près rendu à moitié. Et si le but, c'est vraiment de faire un film, dense et humain et réaliste à propos des relations homosexuelles, c'est aussi à peu près rendu à moitié, je pense.
Mm-hmm.
Là, je peux pas vraiment. Là, je parle pour moi en tant que homme mayonnaise qui prend des décisions pour les autres. Là. Genre, tu sais, je veux dire, c'est comme. Je sais pas là, à quel point c'est réaliste. Moi, j'ai vu du monde des deux bords sur les réseaux sociaux, puis dans mes réseaux à moi. Du monde dire ah, c'est vraiment comme ça ma vie, ou du monde dire ce film est irresponsable et ce film est. T'sais. Fait que je pense que ça dépend beaucoup de ton expérience personnelle.
Mm-hmm.
Ça se trouve que c'est quelque chose qui s'applique à tout le monde. Et non ouais, pas, ouais. Ton expérience personnelle colore ce film-là, ben, comme ça colore tous les films, là, mais colore ce film-là, je pense que tu sois dans une relation homosexuelle ou pas. Là. Ce que je ne suis pas, toi non plus.
Non.
C'est ça.
Ben, jusqu'à ce que Timothy Olyphant me rappelle, je ne suis pas dans une relation homosexuelle. Vous m'excuserez tout le monde à la maison, mais là, je suis en train de passer de Power Watcher Justified. Fait que All About the Olyphant Sit. Je l'ai vu dans la première saison dans le premier épisode de cette saison de Mandalorian. J'ai dit OK, ça va faire, je réécoute tout Justified. Oui, moi je suis d'accord avec toi. Aussi tout comme toi, ben c'est ça. Ce film-là parle d'une expérience, puis de ce que j'ai vu aussi de gens réagir. Tu sais, le fait que c'est un couple gay, puis il y en a une qui cache non seulement son identité sexuelle, mais aussi sa relation et par conséquent sa copine. Et j'ai vu des réactions vraiment des deux bords, moi aussi, dans mes médias sociaux. Du monde sont comme « Enfin! » Un genre de comédie romantique gay de Noël. C'est le fun qu'on en aille une. Ou, Hallmark, justement, en a fait une aussi. Fait que c'est comme la deuxième. Là.
C'était avec deux doudes, me semble.
Ah, OK, c'était avec deux doudes. Okay.
Ouais,
mais bref, il n'y a pas beaucoup de ça. Je suis content que ça existe. Puis, il y a d'autres gens qui s'y réagissent sont comme... Ce que le personnage de Harper fait à Abby est absolument dégueulasse. Et en ce qui me concerne, Abby aurait dû crisser son camp et poubelle. Comme Julie Audet l'a dit, poubelle. Puis, et le tout, puis moi, ça, c'est comme un peu ma mère est partie avec le film, mais le tout, vu que c'est une comédie romantique de Noël, le tout devient plus ou moins réglé par de la magie de Noël.
Ouais.
Et à mon avis, c'est comme ça le problème principal de ce film-là. Puis c'est un film que, tu sais, j'ai tout de même aimé ça. J'ai trouvé ça cute, puis j'ai aimé ça parce que ça vient me chercher dans ben des affaires comme moi. Tu sais, tu as dit que des body swaps, ça vient tout le temps te chercher, là, des films de body swaps. D'ailleurs, il faudrait qu'on écoute Freaky.
Ouais, je sais, je suis là-dessus, là. Je vais bientôt, là.
Ouais. Mais moi, une affaire qui vient tout le temps chercher, c'est du monde qui revienne à la maison. Du monde qui revienne dans leur patelin.
Tu étais très servi par le cinéma indépendant américain entre 1995 et 2015.
Eh oui, j'en ai plein, j'ai un backlog. Si quelqu'un peut, s'il y a des films de quelqu'un qui retourne dans son patelin puis qui a du voyage dans le temps en même temps, là, regarde, là, moi...
Oh boy, ça doit exister en plus, ça.
S'il doit en avoir en masse, là, m'a envoyé ça dans mes yeux. Mais bref, ça, c'est tous des genres de thèmes thématiques qui viennent me chercher. Mais l'affaire avec Happiest Season, qui est... La raison pourquoi il y a ces grosses réactions-là à Happiest Season... Puis je pense aussi que cette réaction-là, puis c'est pour ça aussi que j'aimerais ça aimer ça plus, mais comme tu as expliqué, je suis comme à 50%.
Mm-hmm.
C'est que, et c'est comme ce que tu as dit, c'est que le film peut pas walk the walk dans aucune direction qu'il propose. Puis, comme tu sais, un genre de comédie romantique de Noël, c'est tout de même un plaisir un peu en surface.
Mm-hmm.
Tu sais, c'est... Je ne sais pas à quel point c'est utile des fois de comparer les films à de la bouffe, parce que des fois, je trouve que c'est mais tu sais, c'est comme un soufflé. Tu sais, c'est quelque chose qui est délicat, puis qui est juste beau, puis qui est le fun, mais quand tu mets des émotions plus vraies de « je suis pas out à mes parents », puis je cache aussi l'identité de ma blonde, puis ça nous crée des remous. Ça, c'est des émotions qui sont vraiment chargées, puis qui sont trop vraies pour certaines personnes, puis ou qui sont vraiment comme... Encore là, qui sont vraiment chargées, puis tu peux lisser ça avec de la magie de Noël à la fin pour régler tout. Il y a quelque chose que je comprends qu'une partie de l'auditoire va trouver un peu malhonnête.
Mm-hmm.
Puis moi, je trouve que moi, ça m'a pas convaincu tant que ça. Là.
Ouais.
J'étais convaincu parce que je voulais une belle fin, mais je le savais dans le fond que c'était pas là à 100%. Là.
Mais il y a comme deux affaires. T'sais. Fait que, un, premièrement, je pense que il y a certainement toujours une faille à utiliser ton expérience personnelle pour juger de la validité d'une trame narrative. Là.
Mm-hmm.
Je pense autant à un de mes amis qui, lui, quand il était jeune, ses parents se sont divorcés, puis il n'aimait jamais aucun film où est-ce que les parents se divorcent parce qu'il disait « c'est pas de même quand tes parents se divorcent, je le sais, moi, ça m'est arrivé. » Puis ça, c'est comme « ben ça, c'est stupide. » Genre, c'est stupide de penser ça. C'est comme dire, genre, c'est pas de même des comédies romantiques. T'sais, moi, j'ai jamais... T'sais, bon, ça, c'est pas un bon exemple parce que c'est vrai que c'est pas de même des comédies romantiques. Mais tu sais, je veux dire... Tu sais, évidemment, pas tout s'applique à ta vie, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça, je pense c'est correct. Puis l'autre affaire que je me disais, c'est... Puis ça, je veux faire attention à comment j'amène ça parce que c'est sûr que c'est pas toujours la même affaire, mais admettons que c'est un film de Hallmark hétérosexuel. Puis là, il y a genre... T'as le personnage principal à voir Noël avec un dude, puis là, le dude lui cache quelque chose. Tu sais... Évidemment, ça serait pas genre j'ai amené ma coloc, puis je vais pas dire au monde que c'est ma blonde, puis on est straight, ça marcherait pas. T'sais. Mais mettons, il amène sa blonde à Noël, puis il lui cache quelque chose, puis il s'éloigne d'elle émotionnellement et physiquement pendant le temps qu'il est là. Elle rencontre quelqu'un d'autre, et après ça, jamais que la résolution du film de Hallmark Street serait, mais je suis revenu avec mon chum qui me cachait quelque chose et j'ai laissé partir la personne qui était parfaite pour moi.
Mm-hmm.
Ce qui est ce qui arrive dans Happy Season. No, spoiler alert, I guess, mais oui puis non. Là, je veux dire, happy ending, comédie romantique de Noël, vous savez à quoi vous attendre. Fait que tu sais, je trouve que c'est sûr que je suis pas placé pour appliquer les standards de la vie hétérosexuelle aux relations homosexuelles. C'est pas ça que j'essaie de faire. Mais dans le format et la formule de film de comédie romantique de Noël qui finit avec tout le monde qui admet les choses qu'ils ont cachées un après l'autre, puis tu sais, qui s'enligne pour le happy ending dès la première seconde, là, je pense qu'on surprend personne en disant que ça finit bien. Tu sais, je pense que c'est pas nécessairement la place à faire. Tu sais, aller dans ce genre de nuances ou ce genre d'affaires compliquées, pas évidentes, là, tu sais, puis je trouve que le film est pas 100% équipé, juste de par sa structure, de par ses personnages, de par son sens de l'humour, à vraiment donner de l'attention correctement à ça, tu sais.
Mm-hmm.
Je sais pas, peut-être, tu sais, parce que probablement que le film de Hallmark avec les deux doubles, ça doit être bonbon, à 100%, il n'y a pas vraiment de conflit. T'sais, là, c'est vraiment d'appliquer un conflit de drame à un film qui est, en toute occurrence, bonbon, là, à le reste. Je trouve que ça passe semi-bien. Kristen Stewart, je pense qu'il peut être une bonne comédienne qui a donné des vraiment bonnes performances. Et pas tout le temps bien utilisé, tu sais, c'est parce qu'elle a tout le temps l'air vraiment inconfortable. Je trouve que c'est ça son avantage. Il y a peu de comédiens et comédiennes qui ont l'air aussi inconfortables qu'elle.
Mm-hmm.
Mais là, ici, je sais pas si c'est ça que ça prend, tu sais, puis j'ai comme l'impression, c'est ça, le focus est sur elle, puis Harper, on la voit presque pas. sais, elle devient comme un personnage semi-présent. Puis c'est leur histoire à eux. Ça devrait pas être l'histoire à Abby seulement, je pense.
Mm-hmm.
Tu sais, si vraiment on passe à travers tout le rigmarole là, de qu'est-ce qui leur arrive, il faut que Harper soit le plus présente aussi. Tu sais, de mettre tout ça sur le dos de Kristen Stewart, c'est pas juste pour Kristen Stewart que son talent soit là ou pas, là, je pense.
Mm-hmm.
C'est quand même beaucoup demandé d'elle.
Ouais, tu sais, c'est un film où la plupart des scènes est elle qui se laissait toute seule par un autre acteur au début de la scène, tu sais, comme...
Ouais.
Mais oui, c'est ça. Puis j'ai trouvé comme... C'est ça, il y a une certaine inégalité comme dans ce film-là, puis aussi dans l'aspect humoristique, comme un moment donné, elle se retrouve dans un bureau de gardien de sécurité. C'est un centre d'achat. Mm-hmm. Et un de ces gardiens de sécurité-là, une de ses gardiennes, est bien sûr Lauren Lapkus.
Évidemment. Mais l'autre, c'est Timothy Simmons de Veep.
De Veep. OK, ouais. Fait que, bref, c'est ça. Mais tu sais, ouais. Les voyeurs de vue, c'est un podcast pro Lolap.
Ouais.
Puis elle est vraiment super drôle dans cette scène-là, mais elle joue quelqu'un de vraiment exagéré qui ne semble pas pouvoir exister dans la réalité ouais. du reste du film.
Dans un film de Will Ferrell, genre.
Mm-hmm. Puis la pièce, ils donnent une coupe de scènes comme ça au début. À un moment donné, il y a une genre de bataille aussi qui est comme ça. Il y a le personnage de Mary Holland, qui est une ouais. improvisatrice que j'aime beaucoup, qui a co-écrit le film, qui est aussi...
Et dans une équipe d'impro avec Lauren Lapkus.
Oui, dans Wild Horses. Qui est... Tu sais, vraiment plus... Elle est supposée être bizarre, mais est ouais. vraiment power wacky.
Mm-hmm.
pour l'existence du film. Puis ça, c'est le genre d'affaires d'inégalité humoristique qui me gosse toujours. Mais tu sais, si la réalité émotionnelle serait là, tu sais, on dirait que le fardeau de réalité émotionnelle, dans le fond, c'est caster Kristen Stewart.
Ouais.
Puis elle tient... Faut qu'elle tienne tout le... Comme tu as dit, c'est tout laissé à elle-même. Puis là, tu as le reste du film qui existe autour d'elle. Puis je pense que... Je pense aussi qu'une des raisons pourquoi il y a du monde qui réagisse puis que ça fait aussi que le film marche moins bien pour moi, c'est que son awkwardness puis son être tout seul puis son soupir envoie un texto à sa blonde qui répond ouais. pas est comme trop vrai.
Ouais, c'est ça, c'est zéro comique, tu sais. Genre, Kristen Stewart est pleine de choses, elle est pas drôle. Elle n'a jamais été drôle. Et donc là, en plus, le film ne lui demande pas d'être drôle, mais tout autour d'elle est niaiseux. Fait que, tu sais, puis d'ailleurs, Mackenzie Davis non plus n'est pas vraiment drôle, mais tu sais, comme, elle n'est pas vraiment présente. Tu sais, je la trouve, son personnage est très effacé. C'est comme plus un plot point qu'une personne, on dirait. Tu sais, juste là pour la rendre triste puis faire du mal, puis genre.
Ouais, parce qu'en plus, Mackenzie Davis, me semble, est toujours plus efficace en étant une personne un peu. Une présence comme retirée ou inatteignable ou mystérieuse. Mm-hmm. Du moins, moi, c'est comme ça que je l'ai vu dans plein de rôles puis que ça a vraiment fonctionné. Tu sais, comme elle a de l'air d'une Amazon, elle a des gros bras cut.
Ouais, ben, elle a deux têtes de plus grande que Kristen Stewart.
Fait, ouais, comme... ça, ils n'ont pas essayé. Ils n'ont pas essayé de mitiger cette différence-là. Là.
Ouais, c'est ça.
Elle doit l'amener quasiment comme
ouais.
homme des cavernes star à la maison, là, par ses épaules.
Ça, c'est quelque chose que, genre, tu remarques pas tout le temps, mais j'ai remarqué là. C'est un, quand les deux personnes qui passent le plus de temps dans le film ensemble ont une aussi grosse différence de grandeur, il y a juste une sorte de plan que tu peux faire. Tu peux pas faire des close-ups d'eux autres qui se parlent, genre, à moins qu'ils soient assis. T'sais. Il faut que ta mise en scène, il faut qu'elle soit quand même spécifique. Puis, tu sais, même dans une shot où toute la famille est là, il faut que Mackenzie Davis, sa face soit dans le shot. Fait que c'est tout le temps des shots de loin parce que personne n'est grand comme elle. Genre,
ouais.
Tu sais, il y a quelque chose de très weird, là, de très débalancé. Tu sais, puis c'est encore pire quand c'est Elizabeth Debicki, là, qui est encore plus grande que Mackenzie Davis. Mais, puis, tu sais, ça arrive avec des dudes aussi, mais c'est sûr que souvent, dans un dude, tu sais, ils vont comme mettre la fille sur un Apple Box, là, sur une caisse, juste parce que, genre, tu sais, un dude qui mesure 6 pieds 6, puis la fille, elle mesure 6 pieds, 5 pieds 1, ils peuvent pas, tu sais, c'est bien trop... En tout cas, bref, il y a comme une distance qui se crée, qui est une bonne idée, tu sais, qu'il y en a une qui est petite, puis l'autre qui est grande, ça fait, pour vrai, une différence visuelle, mais c'est pas comique. T'sais, c'est pas dramatique ni comique, c'est juste... Ça s'est mal exploité dans le fait que le film ne sait pas trop de quel bord s'arranger, en plus.
Mm-hmm. Mais bref, c'est ça, mais... En tout, j'ai tout de même trouvé ça bien. T'sais, j'ai trouvé ça vraiment sympathique. T'sais, c'est comme, encore là, j'ai dit que j'ai jamais vu en entier un film de Hallmark, mais on dirait que ça, c'est la version vraiment power chargée. Puis tu sais, aussi, ça parle de ça, mais tu sais, beaucoup de monde derrière la caméra sont justement de cette communauté-là qui sont gays ou lesbiennes.
Ouais,
ben,
c'est réalisé pis... par Clea DuVall.
Ouais, Clea DuVall, oui.
Qui vous connaissez sans doute comme étant elle qui jouait des gossecs dans les années 90, c'est que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu.
Mais mm-hmm. ben, ça fait qu'elle réalise des affaires, je pense, hein, mais elle faisait-tu de la TV?
Je pense que c'est son... The Intervention, son premier film.
Mm-hmm.
Qui est un... Non, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait. Là. Elle était dans Heroes, American Horror Story, elle était dans Veep.
Okay.
Ouais, dans Handmaid's Tale. OK, dans plein d'affaires que j'écoute pas. Mais... En tout cas. Mais bref. Je pense pas que c'est mal réalisé non plus. Mais je pense que c'est d'essayer de forcer trop d'affaires dans une boîte qui a pas beaucoup de jeux. T'sais, la boîte de ce genre de comédie romantique de Noël a vraiment pas beaucoup de jeux. Je pense que c'est pas... Pour plein de gens, ça va être assez. Pour moi, je trouve que c'était un petit peu, genre, c'était... Comme j'ai dit dans mon Letterboxd, c'est comme... Ça, tout ça pour ça, ça me semble énormément de travail pour quelque chose qui valait pas la peine. Mais après ça, c'est moi, tu sais. Je sais pas si...
Mais ouais, en tout cas, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça bien, tu sais. Je pense que ça peut être un pas pire divertissement pour le temps des fêtes, mais encore là...
Ouais.
C'est vraiment comme l'expression, là, tu sais, 5 livres de quelque chose, 10 livres de quelque chose dans un sac de 5 livres.
Mm-hmm.
Tu sais, émotionnellement, je trouve que le film fonctionne comme ça. Mais en tout cas, sinon, par exemple, c'est tout un super beau casque. Ça te dérange pas de passer du temps avec 90 minutes à peu près. Fait que
mm-hmm.
Ça, c'est bien. Alors, ouais, c'est ça.
Je voulais dire aussi que Dan Levy, dedans, de Schitt's Creek, est vraiment drôle.
Oui.
J'étais vraiment content qu'il soit là. Parce que lui, c'est le seul aspect. Il est un peu... c'est le meilleur ami d'Abby, fait qu'il est presque tout le film est au téléphone.
Mm-hmm.
Fait que lui, il existe dans un monde comique quasiment à part. Puis lui, toutes ses jokes fonctionnent. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être justement dans une scène avec Kristen Stewart directement qui regarde à terre en essayant de ne pas brailler.
Ouais. Ben, c'est drôle parce que moi, j'ai pas encore vu Schitt's Creek.
Ah, moi non plus.
Mais je suis au courant de Dan Levy, mais je l'avais pas vu dans quelque chose d'autre.
Mm-hmm.
Mais tout comme avec le casting de d'autres actrices de sitcom, je suis comme, ah, OK, Dan Levy, ça veut dire que si j'écoute Schitt's Creek, ce qu'il fait là-dedans, c'est ça qu'il va faire.
Ouais, c'est clair.
Mais il y a une scène où il donne un speech émotionnel
mm-hmm.
que, tu sais, bien que je l'avais jamais vu dans rien, tu sais, je savais pas qu'il y avait ça en lui. Mm-hmm. Puis c'est un speech où son personnage devient soudainement plus réaliste parce qu'il raconte son backstory, des affaires comme ça. Mm-hmm. Puis il était vraiment fucking bon. Mm-hmm. J'étais vraiment surpris que justement, c'était voir un personnage 2D devenir 3D pendant un instant. Mm-hmm. Fait que ça m'a donné le goût. Je ne sais pas s'il fait ça dans Schitt's Creek, mais ça m'a donné plus le goût de l'écouter et de le découvrir, surtout que c'est écrit ce show-là, toute la quête. Fait que bref, c'est ça. Happy Season, je l'ai disponible sur Amazon Prime et sur toutes les autres plateformes de films, mais sur Prime, il est gratis en ce moment.
Mm-hmm.
Écoute, on va passer à un autre. Je m'ouvre une autre bière. On va passer à un autre film du temps des fêtes qui, lui, est sorti pendant un été, en 1992.
Oui. Oui.
On va parler, bien sûr, de Batman Returns. Batman Returns est le deuxième film de Batman de Tim Burton et le deuxième film la deuxième fois qu'on a vu le Batman de Michael Keaton au cinéma avant le prochain film de Flash, si jamais ça arrive. Et ce qui se passe dans Batman Returns, c'est ça se passe justement dans le temps des fêtes, ça se passe à Noël. Et alors que le pingouin, qui est joué par Danny DeVito, sort des ombres, est abandonné dans sa jeunesse, mais à l'âge adulte, il sort des ombres pour essayer de retrouver ses parents à Gotham City, ainsi que trouver ses origines. Et pendant ce temps-là, puis une fois qu'il s'allie avec Max Shrek, qui est joué par Christopher Walken, qui souhaite avoir son propre pion dans la mairie de Gotham City pour avancer ses propres projets énergétiques et de centrale à Gotham. La découverte de ces projets-là sombres est faite par sa secrétaire Selina Kyle, qui sera cruellement pitchée en bas d'un building par Max Shrek. Et cette mort va transformer Selina Kyle en Catwoman. Et au milieu de tout ça, et oui, faut se rappeler, son nom est dans le titre, Batman est là et il doit danser avec tous ces personnages qui représentent en bonne écriture thématique, différentes facettes de sa personnalité, le tout au temps des fêtes, avec une Batmobile, avec des pingouins, avec des missiles.
Des clowns.
Des clowns, le cirque du triangle rouge, mm-hmm. et plein d'autres choses comme ça. Alex, on a tous les deux vu Batman Returns, mais toi, en plus, tu as réécouté le premier Batman récemment. Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi, ton œil de critique cinéma, de chroniqueur cinéma aiguisé, qu'est-ce que tu penses des Batman de Tim Burton?
Ben, il y a plusieurs affaires. Fait que premièrement, important de noter que Batman Returns est le premier film que je me souviens d'être allé voir au cinéma.
Ah!
J'avais 5 ans. Parce que j'allais dire c'était à ma fête de 6 ans, parce que ma fête est le 25 décembre. Mais vu que c'est sorti l'été, j'avais que 5 ans. Mm-hmm. Et c'était 13 ans et plus, et je voulais vraiment aller le voir. Et j'ai gossé mes parents. Et comme j'ai déjà dit au podcast avant, j'allais pas vraiment au cinéma avec mes parents quand j'étais petit. Ce n'était pas un passe-temps qu'eux, ils aimaient particulièrement. Donc, ils me pannaient à mes oncles et mes tantes pour le faire à ma place, à leur place. Et j'ai gossé ma tante Barbara pour qu'elle m'amène le voir. Puis, tu sais, puis elle était comme, mais, tu vas avoir peur. Tout le monde me dit, tu vas avoir peur. C'était peurant, Batman. Si c'est 13 ans, il y a une raison. Je fais, mais non, c'est Batman. Puis là, quand je suis allé voir, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai eu peur. C'était épeurant. Parce que, tu sais, je veux dire, j'avais déjà vu des films, puis je dis la nuance parce que je sais que c'est pas le premier film que j'ai vu au cinéma. Parce que le premier film que j'ai vu au cinéma, c'est un cartoon de Casse-Noisette qui est sorti quand j'avais en 90.
Mm-hmm.
Quand j'étais sur le bord d'avoir 4 ans. Mais ça, je me souviens de rien du film. Tu sais, j'ai pas d'image du film en tête. Je me souviens d'être allé le voir, mais pas de ce que c'était. Tandis que Batman, je m'en souviens. Puis, c'est ça, fait après ça, à travers ma vie, j'ai vu Batman Returns vraiment plus souvent que Batman l'original. Parce que, je sais pas, ça passait plus à la TV, ça se peut-tu?
Ça se peut, ouais.
Peut-être que ça me parlait plus, parce que c'est ça. Alors, regarde, j'ai réécouté le premier Batman de 89, celui avec Jack Nicholson qui fait Joker. Et c'est quand même beaucoup plus sombre. T'sais, la facture visuelle est beaucoup moins énervée et pas mal moins Tim Burton. T'sais, c'est quand même très Tim Burton, surtout dans un monde où il y en avait très peu.
Mm-hmm.
Mais comparé à Batman Returns, c'est vraiment éclaté. C'est coloré. Il y a beaucoup de lumière. Le premier est plus film noir, des Hitchcock. Il y a toute la fin, c'est tout un genre d'hommage à Vertigo. Pis tout. Fait que, en écoutant le premier, j'étais comme, ouais, tu sais, ça le fait, mais je sais que ça va le faire plus. puis j'ai écouté avec ma blonde qui, elle aime plus le premier Batman parce qu'elle est un petit peu plus vieille que moi, fait que c'est plus de son art. Elle a vu ça au cinéma, tandis que moi, j'ai pas vu le premier Batman au cinéma. Plus de nostalgie pour ça. Puis je pense plus fan de Jack Nicholson en Joker que moi, je suis, ou que plutôt que Danny DeVito en Pingouin, mettons. Puis j'aime bien le premier Batman, mais je trouve que c'est... Tu sais, ça va dans le... Je parle souvent, mettons, les vieux films, comme on parlait de ça avec Untouchables. Tu sais, Untouchables, si tu faisais un Untouchables en 2020, ça serait, je veux faire un film comme les films des années 80, ça serait le style des années 80. Tandis que Brian De Palma, il est comme, je veux faire un film commercial à ma façon. je veux que vous me donniez l'argent pour faire ce que je veux, tu sais. Puis le Batman de Tim Burton, c'est un peu comme... J'ai l'impression que quand ils vont-tu me laisser faire ce que je veux? Si je fais ça, ça va-tu passer? Ah, ça passe. Ah, OK. Ah, OK. Fait que je vais essayer. Maintenant que ça passe, je vais essayer ça, tu sais. Je trouve que les excès de style sont plus livrés au compte-gouttes un peu. Puis d'une façon un peu plus classique, puis tu sais, peut-être plus facile à prendre pour le commun des mortels. Parce que Batman Returns, c'est assez gonzo, là. Le ton est dans... J'ai rarement vu des films qui ont ce ton-là, en fait. Quand un ton vraiment de cartoon, mais assez malaisant, assez dark, très coloré, très éclaté, très comic book, là, comme de la façon qu'on utilisait ça, mettons, avant qu'il y ait plein de films de comic book. Puis au niveau de la facture visuelle, beaucoup plus élaborée, je pense. C'est pas que Batman de 89 est pas beau. En fait, je pense que Batman de 89 est pas mal plus beau visuellement. Parce que c'est pas grotesque comme.
Ouais.
C'est là 92, il est grotesque. T'sais, quand ils vont dehors, puis il y a un speech dehors là, de Max Shrek, là, toutes les hosties de lumière possibles sont allumées. T'sais, c'est la nuit, mais il fait clair, clair, clair. Tandis que dans le premier, quand c'est la nuit, il fait noir. Puis c'est quand même une différence. Puis ça me fait aussi penser à l'idée que quand on a vu, mettons, le Batman de Nolan, on était comme, tu sais, finalement, Batman va être dark. Mais tu sais, premier Batman, relativement parlant, est quand même dark. Tu sais, il y a des affaires niaiseuses. Là. Le Joker, il est pas dark comme les Jokers vont l'être par la suite. Mais puis Jack Palance dans le premier, je sais pas si tu te souviens-tu de Jack Palance. Dans...
Ouais.
Lui, il est comme, ah, oh, c'est un film de comic book, je comprends. Là, il parle super fort, il cligne pas des yeux. C'est comme, c'est que tu fais, man. Puis c'est ça, je pense que le concept d'un gros blockbuster, d'une grosse IP, existait moins en 89 qu'en 92, même si c'est relativement proche les uns des autres. Fait que... Premier Batman est un petit peu plus expérimental dans la mesure où ils essaient des choses, car ces choses n'ont jamais existé.
Mm-hmm.
Puis une fois qu'ils ont fait dans le 2, ils sont quand on n'est pas intéressé par ça tant que ça, là. Maintenant qu'on sait qu'on peut faire ça, check c'est quoi qu'on voulait vraiment faire. Puis c'est très... c'est ça. C'est power mongol, là, genre. Tu sais, comme... juste une chose que je trouve vraiment, c'est le corps du pingouin. Comment Danny DeVito est attriqué pour avoir l'air d'une boule de bowling avec des jambes puis des bras, là, genre.
Il est un homme œuf en grosse combinaison à panneaux. Qui a jamais été lavé.
Puis, ouais, il y a toute la raie sale. Ça, c'est
des fois, je suis comme, wow, toute sa fourche, c'est vraiment sale. Ça. Tu sais, on parle des affaires qu'il ferait plus maintenant. Ça, c'est définitivement une affaire qu'il annonce.
Puis, tu sais,
les enfants ne voudront plus se torcher pour avoir l'air du pingouin.
Tous ces aspects-là, je trouve, sont vraiment intéressant, tandis que le premier Batman, ça garde une petite gêne. Puis ce que j'aime vraiment de Batman Returns, c'est qu'il se garde aucune gêne. Ça n'a pas de style de rapport. T'sais, Christopher Walken est le méchant dedans, puis c'est même pas le méchant le plus fucked up des méchants du film. Là, fait que...
Ouais, on dirait que Christopher Walken, il... Ah quoi, moi, vous me donnez juste comme une perruque blanche. Mm-hmm. C'est juste ça que j'ai, moi. Fait que là, il essaye d'être...
À un moment donné, il y a un gros crise de turban.
Ouais.
Il y a un party costumé, puis il porte un turban vraiment, tu sais, qui est gros comme une autre personne sur sa tête.
Ouais, là, lui, il était... Ouais, quand ils ont amené son turban au début de la journée, en fait, non. Tu vas me ramener ça, il faut qu'il soit plus gros. Faut que je puisse faire la contrebande dans ce turban-là.
C'est ça. Fait que, tu sais, ouais, puis tu sais, puis juste de mémoire, tu sais, les scènes que je me souvenais de quand je l'avais vu quand j'étais petit... Parce que c'est vrai que je l'ai vu souvent, mais j'ai pas dû le voir depuis que j'ai peut-être 12 ans.
Mm-hmm.
Puis je me souvenais de Catwoman qui tombe par la fenêtre, puis les chats viennent la licher, puis elle devient, c'est comme ça qu'elle devient Catwoman.
Mm-hmm.
C'est, que je respecte aussi le chutzpah de faire « C'est comme ça qu'elle devient Catwoman. » Ben, elle allait mourir, mais là, les chats sont venus.
Ouais.
Là, maintenant, elle a des super pouvoirs.
Le pingouin, il est juste né de même. C'est juste ça.
C'est ça. Tu sais... Puis je me souviens de ça, je me souviens de, du pingouin qui mord le nez d'un doute dans un party.
Mm-hmm.
Évidemment. Je me souviens de la scène où ce que plein de clowns à moto sortent d'une grosse tête de mort. Ça, c'est la partie que je me souviens qui m'avait terrorisé. Parce que, genre, ça, c'est des clowns qui rient, qui sont comme sur des motocross. Puis ça, je trouvais ça extrêmement grotesque. Je trouvais ça un peu moins, tu sais. Comme quand j'écoutais Labyrinthe, c'était type, j'étais comme, ah, Labyrinthe, c'est pas mal plus un cartoon que ce que je me souviens.
Mm-hmm.
Ça se trouve que quand t'es petit, ton cerveau déforme certaines choses et Batman Returns en était une.
Absolument. Écoute, moi, sérieux, là, l'affaire qui m'a vraiment surpris, c'est à quel point j'étais comme vraiment satisfait comme des 20 premières minutes de toutes les origines. Mm-hmm. Batman, il se bat contre un gros ennemi thématique, comme un gang de motards, un gang de criminels qui sont aussi des motards, mais qui sont aussi un cirque en même temps. Puis Batman, il se bat contre eux autres. Je suis comme, molto bene. Tu sais, comme, à place de se battre contre des dudes criminels qui existent pour de vrai, là.
Ouais.
Ça, je trouve ça nice, là. Mais c'est drôle parce que moi, ma relation avec. Ben, moi, d'ailleurs, j'ai vu le premier Batman au cinéparc. Quand j'étais jeune, j'avais gossé mes parents pour qu'on aille le voir en 89. J'avais 9 ans. Et je voulais le voir. Et je me rappelle d'avoir vu le Batman Returns au cinéma à Québec quand j'avais 12 ans. C'était, il n'y avait pas de cinéma à la salle. Il y en avait un à Rouen. Mais quand on faisait ce qu'on... Comme on prenait nos vacances durant l'été avec mes parents, ben, t'sais, on partait en voyage. T'sais, moi, j'essayais de... Si on avait une place... Il y avait un cinéma où j'essayais comme de gosser mes parents de me laisser aller au cinéma pour voir certains films.
Mm-hmm.
Pendant qu'il y avait un cinéma proche, puis ils me laissaient aller, puis je me rappelle d'avoir vu Batman Returns comme ça. Puis, tu sais, je me rappelle la première fois que je l'ai vu, d'avoir juste trouvé ça comme. D'avoir trouvé ça cool, mais avec le temps, mon aspect de puriste de comic book me faisait vraiment moins aimer ces films-là.
Mm-hmm.
Parce que, justement, à cause de bien des libertés que Tim Burton prenait, qui étaient différentes du canon que j'aimais, que je chérissais, mais à cette époque-là, je voyais vraiment comme juste... Je voyais juste les arbres puis pas la forêt.
Mm-hmm.
Et là, maintenant que je le réécoute, maintenant que je vois la forêt, je trouve que Tim Burton il saisit pour la plupart vraiment plus mieux les personnages que je me rappelais. C'est juste que le chemin pour se rendre est différent. Il est Tim Burtonifié, puis il aime ça, puis il trouve ça le fun. Puis où s'il se rend est plus intéressant. En l'écoutant, j'ai beaucoup pensé à Joker.
Mm-hmm.
Premièrement, parce que je trouvais le film épeurant, puis aussi Joker me faisait peur, parce que ça me faisait penser à la société. Puis la société est la chose la plus épeurante. Mais en fait, tu sais, ben des problèmes avec Joker de 2019, mais ultimement, mon problème, c'est que ce gars-là, il est juste quelqu'un qui est dans marbre dans la vie, puis qui devient, qui tire quelqu'un dans la tête à Johnny Carson. Spoilers pour Joker. Puis, il est supposé être le Joker à cause de ça. Tu sais, mais regarde, le film pourrait s'appeler Clown, puis ça ne changerait rien. Versus, mettons, ce qu'ils font avec Catwoman dans Batman Returns, où ce que, tu sais, Catwoman, c'est pas une secrétaire esselée qui a besoin de repousser les affaires mal et de croire en elle dans la vie. Puis c'est pas une personne qui périt à cause du patriarcat puis quelqu'un de maléfique. Et de ça, elle renaît pour faire payer ces gens-là. Mais Catwoman, c'est tout de même, dans la version héroïque du personnage, c'est tout de même un personnage qui veut faire payer ces gens-là. Fait que, quasiment tout ce qu'elle fait dans le film, je suis comme, ah ouais, c'est quasiment tout ça ce que Catwoman a fait, c'est juste que le chemin est différent pour se rendre là. Et même chose pour le pingouin, qui est souvent un personnage qui est soit un gangster, qui est soit autre chose, mais qui est obsédé avec le statut, puis qui veut être à une meilleure place. Fait que j'ai vraiment plus aimé Batman Returns que les fois que j'avais écouté dans le passé, parce que dans le temps, je me disais que c'est pas comme les comics.
Ouais.
Fait que j'ai vraiment trouvé ça super le fun. Je te dirais cependant que je trouve tout de même que la version de Batman est un petit peu plate. T'sais. Il fait juste comme un peu réagir.
Ouais, ben, t'as remarqué qu'on a presque pas parlé de Batman du tout.
Ouais, ben, c'est ça. Cela dit, l'image où il part le bat-signal, puis ça pitch un bat-signal dans son salon, puis il se lève avec Michael Keaton devant le... Ça, là, ça, c'est extrêmement mon shit. Ça, c'est meilleur que. Tu sais, je pardonne quasiment. À quel point que Batman est quasiment un non-entité dans ce film-là,
ouais.
À cause de cette scène-là, parce que ça, c'est du Batman pur grain, très puissant et iconique. En fait, je trouve que Batman, il devient vraiment comme plus vivant quand il est avec Selina Kyle, qui est avec Catwoman.
Mm-hmm.
Puis j'ai souvent pensé comme, tu sais, le pingouin, c'est le fun, mais si c'était un film de juste lui puis Catwoman, je pense que ça serait vraiment nice. Puis... J'ai aussi trouvé ça dommage comme ah, il aurait dû. J'aurais aimé ça que Tim Burton revienne pour un 3 puis qu'il y ait encore Catwoman puis Batman dedans. Puis ça, je pense que ça aurait été super cool.
Ben c'est ça, tu sais, je pense qu'un des problèmes avec ça, puis c'est une affaire qui revient souvent quand on parle de Batman Returns, c'est que ben, première chose, c'est sûr que dans un monde où les deux seuls films de Batman qui existent, c'est Batman puis Batman Returns. Je pense que c'est correct de dire ben c'est quand même de la marde. Parce que tu sais, en 1992 ou tu sais pas qu'il va y en avoir des centaines de milliers d'autres puis qu'à un moment donné, il va dire fuck. Genre,
ouais, t'sais. Ouais. Fait que, si je le savais quand j'étais jeune qu'à un moment donné, Batman allait dire fuck, ça aurait tout changé.
Avoir su, tu sais. Sauf que je pense qu'avec le recul, quand tu regardes ça sur la diaspora des Batman, c'est comme écoute, je suis quand même content qu'on a pu aller aussi loin de l'affaire et ça reste Batman, tu sais, quand même. T'sais, cette partie-là, je trouve hâte, puis ça, c'est toujours une affaire, comme je parle souvent de ça au show. Tu sais, dans le temps, on était tout à fait fâchés quand les réalisateurs, ils prenaient des libertés avec le matériel source, tu sais, parce que c'était pas comme on pensait que ça allait être. Parce que tu vois pas plus loin que le moment même, tu sais, c'est normal. Mais on n'avait pas pu imaginer que c'est plus plate un peu quand les adaptations sont vraiment, vraiment fidèles à la source. C'est pour ça qu'on a des films de Hobbit qui durent 7 heures, où est-ce qu'on les voit, tu sais, négocier pour s'acheter du pain pendant une demi-heure ou whatever. Tu sais, comme oui, il y a des gens qui sont satisfaits par ça, mais là, on perd la partie où c'est que, genre, quelqu'un voit Batman, fait OK, je sais quoi faire avec ça, puis il livre de quoi de complètement Coco Batman, tu sais. Ça, c'est l'affaire avec Batman. Je pense que Batman Returns serait peut-être encore mieux s'il y avait eu un troisième Batman de Burton. T'sais, on le verrait encore mieux parce que je pense que ça met en place des blocs qui, après ça, sont jamais utilisés.
Mm-hmm.
Parce que spoiler alert pour Batman Returns, le dernier plan du film, c'est Catwoman. Qu'on pense qu'elle ne va pas revenir et elle revient. Il y a un cliffhanger de Catwoman. Qui suggère qu'il y avait effectivement l'idée d'en faire un troisième. Sauf que le studio a fait, là, Tim Burton, qu'est-ce que c'est que cette shit sadomaso, que les fesses sales du pingouin, on peut pas vendre des bonhommes avec ça, Calis.
Zack Snyder, il pense qu'il fait quelque chose avec son Batman qui dit fuck. Bro, le pingouin se torche pas dans le film. Le pingouin se torche pas. Il taponne les seins d'une jeune dame qui veut voter pour lui. Danny DeVito, qui pratiquait le rôle qu'il allait être dans It's Always Sunny 20 ans auparavant, avec de la sludge noire qui sort. Michelle Pfeiffer se lèche. Batman Returns aurait dû être côté R.
Elle lèche la face de Batman, me semble, à un moment donné.
Oui, c'est extrêmement sexuel. Batman Returns mérite un R bien avant que ça va être... quoi dans Justice League, là, ça va être quoi? Un personnage en CGI va couper un autre personnage en CGI en deux, puis on va se pourrir de penser comme « Oh my God, côté R! » Chris. Catwoman a été l'éveil sexuel de plein de gens.
Ouais.
D'ailleurs,
aussi, elle a une scène, la scène où elle pète tout dans son appart. Citizen Kane. Tu sais, on en a parlé dans Citizen Kane cet été, genre. Tu sais, il y a une scène d'anthologie dans Citizen Kane où il pète tout son appart. C'est ça que Catwoman fait également, tu sais. Les références, ils sont quand même évidentes, là, maintenant. Tu sais, Max Schreck, c'est l'acteur qui joue Nosferatu dans Nosferatu de F.W. Murnau de 1922. Mm-hmm. tu sais, c'est des affaires. Surtout que si tu te fies à Tim Burton, c'est pas tant tiré par les cheveux que Tim Burton aime ces choses.
Mais, il aime ça, ces affaires-là. Là.
Mais comme je regardais ça, je disais que, hey, tu sais, maintenant, si y a une référence à Citizen Kane dans un film de super-héros, ça va être genre quelqu'un qui a une canne qui s'appelle Citizen. Genre, ça va être
ouais.
ça. Là, des hosties de nerds sur Twitter vont être genre, wow, did you spot the reference to Citizen Kane? Puis là, tout le monde, Steve va se rouler à terre.
Là, il y a un ordinateur avec un snow globe. Puis là, quand ils hack l'ordinateur, c'est comme le password est Rosebud.
Ouais, c'est ça.
Mais une affaire que je voulais dire aussi de mais ah ouais, mais c'est ça, tu sais. C'est vrai que c'est le fun de pouvoir voir quelqu'un qui reach aussi loin. Puis, je suis comme. C'est dommage que ça arrive moins. Parce que là, on parle de Zack Snyder, là, mais tu sais, que je trouve que sa version de Superman et des personnages de DC en général est terrible. Mais au moins son Justice League, qui va sortir jusqu'à la fin des temps dans des nouveaux formats.
Oui.
Si c'est pour être sa version, pas que son Coco Banane m'intéresse tant que ça, mais si c'est le plus Coco Banane qui va être, au moins c'est ça. C'est vrai que c'est dommage que Tim Burton n'ait pas pu faire un troisième Batman, parce que je pense à ça souvent dans les comic books, justement, où ces personnages-là sont nés.
Mm-hmm.
Habituellement, quand un writer puis un artiste fasse un gros move avec un personnage, il fallait comme qu'il s'achète, mettons, un an, peut-être plus, de « OK, je peux faire le personnage 101, la version 101, là, la version meat and potatoes du personnage, puis là, après, je peux faire ça. » Comme, mettons, avant que Brian Michael Bendis comme révèle l'identité de Daredevil, ouais. Avant de le faire avec Superman, qui l'a fait aussi récemment. Avant de faire ça, tu sais, il s'est pris comme un an de check, les aventures sont là, tout ça. Puis là, on peut dire que même si c'est un peu wacky, tu sais, Tim Burton l'a fait avec son premier. Mm-hmm. Puis c'est ça qu'un troisième, tu sais, il y avait. Tu sais, Damon Wayans était casté pour être Robin, puis apparemment, ouais. il y a des shots de Batmobile que c'est lui qui conduit la Batmobile dedans, mais ils ont pas tout tourné ou ils l'ont enlevé ou je sais pas quoi, là, mais en tout cas, j'aurais aimé ça voir un Robin de Tim Burton, anyways. Là.
Ouais.
Mais c'est ça, sinon, j'ai vraiment aimé ça. Surtout pour la première moitié, parce que c'est là que tu sens que Tim Burton est excité de ces nouvelles idées-là. Tu sais, il est content de faire le unboxing de son Batman pour nous autres.
Mm-hmm.
Mais le reste, le film se sauve un peu après. Il y a l'aspect du pingouin qui reste. Je pense en vrai que c'est ça l'affaire qui l'intéresse le plus après.
Ouais.
Le grotesque, puis tout l'aspect Trump de Shrek, puis de
ouais. Son fils qui est identique à Eric Trump.
Ouais. Puis, tu sais, l'aspect d'un hostie dégueulasse qui est splitté aussi sur le pingouin. Là. En tout cas, le pingouin et Shrek, ils sont un gros Trump ensemble.
Mm-hmm.
Le reste de ça, tu sais, c'est... Puis aussi un peu, tu sais, la comédie romantique de Catwoman puis de Batman, il aime ça. Mais quand c'est le temps de régler ça, de ramener ça à la maison, là... C'est un petit peu plate. Il y a des visuels de fun, mais on le perd un peu. Là.
C'est ça. Ouais. Mais tu sais, c'est intéressant pareil aussi que justement, ils ont vu que Tim Burton, ça, il avait chié, tu sais, il a chié ça pour le studio. Fait qu'ils ont dit là, il faut qu'on change ça complètement, puis on va donner ça à quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait. Joel Schumacher. Puis Joel Schumacher, il est comme, mais non, Batman, c'est pas gothique. C'est drague. Puis là, les autres, ils ont fait « Ah, OK. » Tu sais, comme...
ben, j'ai écouté... Il y a une couple d'années, j'ai écouté ces deux Batman back-to-back. Puis je les aime, ces Batman. Encore là, pendant un bout, je les ai détestés. Mm-hmm. Mais là, j'ai tourné un coin. J'ai trouvé vraiment le fun. Mais ce qui me gosse, c'est que à un niveau scénaristique, sont pas loin d'être des aventures plus le fun qui se tiennent un peu plus en termes d'une aventure de film pour enfants. Là, tu sais, mm-hmm. qui sont vraiment pas loin d'être un peu plus tight. Puis si il était au moins satisfaisante à ce niveau-là, tu sais, comme un vieux film de Disney ou je sais pas quoi, le Chris, là, tu sais, mm-hmm. mettons un Speed Racer ou je sais pas quoi, là, tu sais, ou même, non, pas exactement les films pour enfants de Robert Rodriguez, là, les autres sont un petit peu trop wackadou, là, mm-hmm. mais c'est proche de au moins se tenir, mais il s'est trop laissé aller pour ça, là. Mais ouais, sinon, en tout cas, bref, Batman Returns, une bonne vue de Noël, un beau film en noir et blanc et bleu.
Oui.
Et aussi, une affaire que je voulais dire, tu sais, qui est vraiment incroyable, je trouve que ben, tu sais, la performance de Michelle Pfeiffer en Catwoman mm-hmm. est vraiment excellente. C'est instantanément iconique. Puis son costume est hypnotisant. Et pas juste parce que c'est une femme extrêmement sexy dans ce costume-là. C'est juste que ce costume-là, il est luisant comme une flaque d'huile.
Ouais, ben ça a l'air qu'il graissait avec de la silicone liquide à chaque prise.
Ça devait être terrible à porter.
Elle pouvait pisser une fois par jour.
Oh my God. une médaille pour elle.
Non, mais parce que c'est ça, c'est serré en tabarnak. Puis tu sais, déjà, Michelle Pfeiffer, ça prend pas beaucoup de place.
Non, c'est une petite madame.
Mais ça, tu sais, ça l'effoire, là, ça n'a pas de sens. Genre, ça a tellement l'air pas inconfortable. Puis tu sais, tous les costumes, le costume de Batman aussi, il a l'air de peser une tonne, genre. Puis tu sais, mm-hmm. ça limite beaucoup aussi qu'est-ce que Michael Keaton peut faire. Parce que dans celui-là, il est quand même beaucoup, beaucoup en Batman comparé mm-hmm. à être en Bruce Wayne. Dans le premier, il est beaucoup en Bruce Wayne. Fait que tu sais, il est une non-entité parce que dans le fond, il est une bouche strappée après genre 400 livres de costume qui a l'air incapable de bouger.
J'avais lu une entrevue avec un des scripteurs du film, Daniel Waters, puis mm-hmm. il avait dit qu'il avait travaillé avec Michael Keaton sur le script, puis Michael Keaton rayait la plupart de ses lignes quand il est habillé en Batman, quand il est en okay. Batman, parce qu'il disait comme après une phrase, subconsciemment, les gens, comme leur niveau d'attention baisse quand ils mm-hmm. voient quelqu'un parler dans un costume. Essentiellement, une face qui bouge pratiquement pas.
Mm-hmm.
Fait qu'il disait comme, tu sais, il faudrait enlever toutes ces lignes-là ou soit les combiner en une ligne parce que le monde, il est comme, je peux pas dire un paragraphe en Batman parce que ça va juste pas marcher, tu sais. Puis, moi, j'aurais aimé ça voir cette version-là, mais c'est tout de même intéressant sa philosophie parce que tu sais, il disait que c'est une performance que tu laisses le costume parler plus que toi tu parles.
Mm-hmm.
Mais ouais. En tout cas, mais en effet, il y a du non-entité. C'est une affaire que je trouve dommage, là, même s'il fait un petit peu plus d'affaires dans mon souvenir, mais tu sais, j'aime ça quand que le personnage titre du film
est dedans.
Est dedans et actif. Ouais. Pour ça que j'aime bien.
Ouais, c'est une critique valable.
Ouais.
Moi, j'ai vraiment aimé ça. Genre, j'ai trippé beaucoup sur mon rewatch juste parce qu'il y avait tellement d'affaires plus pétées et des choix champ gauche que dans mon souvenir. Mais tu sais, en même temps, je suis d'accord que ce que j'aime beaucoup, tu sais, c'est très. Ça concorde avec ce que je pense d'habitude que j'aime le film de super-héros parce que pour toutes les affaires qui sont pas des affaires de super-héros, mmh. ça concorde avec ma vision des choses en général.
Mais tu sais, moi, plus que ça va, j'ai tout le temps mon aspect de je veux que ce soit comme certaines affaires des comics, je veux que ça me fasse sentir de la même façon que ces affaires-là mmh. me font sentir dans les comics. Puis. Mais il y a un autre aspect, plus que ça va, que je suis comme, faut que tu laisses, mettons, les cinéastes faire des affaires différentes, de la même façon que quand je lis un comic, faut que je sois capable, faut laisser de la place à un artiste de décider comme, non, je dessine le costume de même maintenant, ouais. parce que je trouve ça plus cool, puis habituellement, c'est vrai. Puis, tu sais, faut comme laisser les artistes Faut comme laisser les cinéastes faire ça. Puis c'est une affaire qui est un petit peu dommage. Mmh. Comme, tu sais, mettons avec les films de Marvel qui sont tout de même à une facture similaire. Tu sais, mettons que tu décides que Iron Man, il est entièrement doré dans les films d'Iron Man, puis là, que dans les films d'Avengers, non, il faut qu'il soit rouge puis jaune, tu sais. Tu peux juste faire ça aussi, là. Tu peux juste redesigner le look, puis tu vas vendre une autre bubble anyway. Il va avoir un autre costume de toute façon, puis pour ça que j'aimerais ça que, tu sais, ces films-là soient un petit peu plus wild de cette façon-là. Là.
Mais c'est pour ça, ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que je pense aussi, tu sais, que justement, la chose qui arrive encore souvent, c'est qui s'est arrivé avec Solo, mettons, c'est qu'à mi-chemin dans la production, le studio se rend compte, hey, c'est pas ça qu'on a voulu se passer commercial, il faut qu'on renvoie quelqu'un pour venir changer ça. Ça, ça n'a jamais fait un bon film, là, à moins que je me trompe. Tu sais, ça a fait des films corrects, là, mais il n'y a jamais un film qui se dit, écoute, c'est un classique et pourtant ça s'enlignait pour être de la merde. Plus souvent que d'autres choses, c'est de la merde. T'es aussi bien de laisser le monde. Une fois que tu as pris la décision de laisser quelqu'un comme Tim Burton faire un film, t'es aussi bien de le laisser aller all the way puis tu le mettras dehors une fois que le film est fini comme ils ont fait avec Batman Returns. Plutôt que de le remplacer par Ron Howard à mi-chemin, tu sais.
Non, non, c'est clair.
Fait que, genre, pour ça, le Snyder Cut, tu sais, genre, c'est pour, comme tu disais tantôt, genre, ça, je suis sûr que ça va être de la merde, là, mais je suis plus pour des Snyder Cut que, tu sais, des solos, là, comment ça existe.
Des solos ou des Joss Whedon versions de Justice League.
C'est ça, exact.
Oh là là. Hey, on a... ça revient de bon, toujours notre bon boy Zach. Hein? Joyeux Noël à lui. Ben, bref, c'est ça, je pense. Je veux dire, Batman Returns est disponible partout. Je pense qu'on a tous les deux visionné par Crave.
Il est disponible
en streaming sur Crave en ce moment. Alors, on invite les gens que vous voulez voir en streaming, il est là. Fait que je pense qu'on va terminer l'épisode là-dessus. Avant qu'on termine, Alex, comme j'avais suggéré avant l'émission, et je pense que tu es partant, on va revenir, pas la semaine prochaine, mais on va revenir avant la fin de l'année, afin de vous faire part de nos tops de l'année.
Exact.
Alors, des films, nos films préférés de 2020, des films, nos films préférés qu'on a vus en 2020, qui ne viennent peut-être pas de cette année. Hey, est-ce que Uncut Gems finalement compte finalement pour un 2020 ou un 2019?
Ben, tu sais...
On a parlé en 2019, me semble.
Ouais, non, on l'a parlé en 2020. C'est sorti ici en janvier 2020.
OK.
Ça compte, tu sais, moi, je fais partie de la QCC, l'Association québécoise des critiques de cinéma. On a fait notre palmarès. c'est sorti hier, me semble. Des top 5 films internationaux, les top 5 films québécois. Et Uncut Gems se qualifiait pour 2020. Fait que techniquement on peut le compter. Moi je l'ai vu à Toronto, puis après ça je me souviens que je l'ai vu aussi au Moderne en preview, puis ça c'était avant Noël. Fait que moi techniquement je n'ai vu Uncut Gems qu'en 2019, mais bon, je pense que ça compte pour la sortie en salle là, en tant que tel.
Ben, c'est ainsi que tu gagnes et qu'il gagne.
Voilà.
Alors ça, revenez-nous dans, pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. On va vous parler de nos films préférés de 2020. Mais en attendant, Alex, les gens qui veulent te suivre, ils te trouvent où?
Oui, cultmontreal.com sur Twitter. C'est Alex Rose, deux petites barres en dessous. Ouais, elle existe sur Instagram et sur Letterboxd. Je tenais aussi à m'excuser. L'autre fois, je cherchais un vieil épisode qu'on avait fait. Et avec quelqu'un, un auditeur qui avait dit que je faisais trop de spoilers pour des films qui venaient juste de sortir. Puis, je viens dans... Ah, c'est sur The Devil All The Time, j'avais mis plein de spoilers. Puis le film n'était pas encore sorti. Puis là, genre, j'ai fait des spoilers de Happiest Season, fait que je m'excuse à ce doute-là, mais il les a déjà entendus. Il est trop tard.
pour ma part, c'est Adrien Belzil. Vous pouvez me suivre sur Instagram ainsi que sur Twitter. Sur Instagram et des dessins. Et bien sûr, si vous écoutez ceci, c'est sans doute que vous êtes un fan de cinéma, mais ce show est disponible grâce au Patreon de Trois-Bières. Alors, si vous souhaitez encourager la production des Voyeurs de vue, vous pouvez le faire en vous abonnant au Patreon de Trois-Bières, patreon.com/Trois-Bières, où vous allez trouver plein d'autres beaux shows en même temps que les Voyeurs de vue. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et on vous souhaite de joyeuses fêtes ainsi que de joyeuses vues.
Bonjour ho.
Bonjour ho. On aurait dû commencer l'épisode avec bonjour.
Calice, hein? On n'a pas bonjour ho et notre affaire.
Bon, d'accord.